Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview qui se déroule aujourd'hui à la galerie Magma, à l'arrière de Café Théâtre Andarta, numéro 6. Yann Le Croenec, nous sommes avec vous pour l'exposition que vous proposez depuis le 7 décembre et qui va se dérouler jusqu'au 4 janvier. Alors une exposition qui propose une multitude de modes d'expression, que ce soit de la peinture, de la photographie, du dessin, de la gravure. Alors avec un thème abordé, c'est quand même en quelque sorte, on pourrait dire une silhouette, la thématique.
Alors en fait c'est c'est principalement le médium photographique donc qui est la rencontre de la lumière et du temps qui produit ces images donc ce qui les réunit en fait c'est leur aspect pictural, les références à la peinture qu'elles soient classiques ou plus contemporaines ou en tout cas modernes comme des références à Bacon ou Richter. Et sinon, quand même une ambiance plus classique pour les grands formats qui évoquent plutôt Rembrandt ou Latour ou Bruegel, Jérôme Bosch.
Cette approche de la représentation entre photographie, peinture, un trouble peut-être même. Les images d'ailleurs sont en général plutôt troubles. Qu'est-ce que tu veux faire transparaître dans cette proposition ?
En fait, ce flou est pas du tout un flou, de mouvement. C'est un flou de mouvement. Il est dû au long temps de pause, un petit peu comme les photographies anciennes, où lorsqu'il y avait des enfants ou des bébés, ils n'apparaissaient pas sur la photo puisqu'ils disparaissaient à cause du mouvement. Et en fait, cette approche, elle vient du sténopé. C'est-à-dire que c'est une époque où je travaillais le sténopé. Donc, il y a certaines œuvres qui sont assez anciennes, hein, qui datent de 2003, 2006. Et donc, je travaillais le sténopé. Mais le sténopé, on a besoin de beaucoup de lumière. Donc, ce qui faisait que quand arrivait la nuit ou des jours pluvieux ou sombres, je ne pouvais pas travailler. Donc, c'était le tout début du numérique. Donc, j'ai commencé à utiliser un appareil photo numérique pour, avec le même type de réglage, donc des temps de pause assez longs, en fonction bien sûr de l'éclairage, etc., pour pouvoir avoir ce type d'image, cette apparence qui moi m'intéresse, puisque moi je suis peintre avant tout, et que j'utilise la photographie, mais plutôt de manière expérimentale, eu égard aux spécificités du médium, donc la rencontre de la lumière et du temps, hein, l'ouverture aussi.
Tu parlais de photographes anciennement, je pense à Jet aussi, avec ses vues de rue de Paris, où l'exposition de prise de vue était très longue, au point de faire disparaître l'humanité, puisqu'elle se déplace, et parfois on peut l'apercevoir incidemment dans l'entrebâillure d'une porte, par exemple.
Oui, effectivement, c'est intéressant. Bon, quand on travaille en sténopé, on s'amuse forcément avec ce genre de choses. J'ai fait des photographies, par exemple, à la gare de Lyon, où je suis absolument seul, parce que tout le monde bouge. Et donc, quand on reste immobile, le reste du monde, en tout cas, tout ce qui est mouvant, soit est flouté et a tendance à disparaître, surtout pour des longs temps de pause.
Ce désir, justement, c'est de quoi ? Vouloir transmettre quoi par cette notion de la disparition ou de ce trouble, de ce passage du temps ?
En fait, ce qui m'intéresse dans cet aspect bouger un petit peu, c'est l'aspect archétypal de la présence. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans le portrait, parce qu'il y a un certain nombre de portraits, c'est pas du tout l'individualité, la personnalité, en tout cas pas dans la façon dont on l'envisage habituellement, mais plus une présence, quelque chose qui est comme s'il transparaissait quelque chose de en fait inhérent à l'intériorité de la personne, avec bien sûr à cause de son rythme. Il y a des gens qui bougent plus ou moins, et oui, l'aspect universel, on va dire. Ouais, c'est ça qui m'intéresse vraiment dans ce travail-là.
Ça rejoint un peu ce que proposait aussi Bacon, cette recherche en profondeur du visage ou du corps.
Oui, tout à fait. Effectivement, Bacon, lui, le produisait artificiellement, mais après, il s'inspirait aussi de la photographie. Il a beaucoup travaillé d'après les photographies de Muybridge, donc qui étudiait le corps en mouvement. C'est une de ses inspirations. Effectivement, là, cette photographie qui est en vitrine, elle est vraiment très absolument baconienne, puisque on voit un personnage qui est en même temps de profil et de face, sachant que voilà. Alors là, en fait, il y a pas de dans ces photographies, tout le travail est fait à la prise de vue, mais sur ce tirage-là, exceptionnellement, en fait, selon les réglages que je faisais. J'avais soit ce très beau profil, mais avec une tache blanche au centre, ou alors, quand j'arrivais dans les réglages à foncer beaucoup plus la photographie, ben, j'avais cette oreille, ce visage un peu grimaçant, mais le profil avait disparu. Donc en fait, j'ai appliqué deux réglages différents à cette photographie que j'ai superposé pour pouvoir avoir les deux aspects. Donc c'est juste de cette façon-là que j'ai utilisé Photoshop. Il n'y a pas de retouche autre que ce qu'on pourrait faire en fait en labo, juste en occultant une partie qui a été suffisamment assolée.
On parlera de cet aspect technique, hein, pour les photographies qui sont présentes. Il y a donc cette référence aussi, tu le citais en début d'émission, sur de la tour, avec cette lumière souvent originaire d'une simple bougie. C'est un peu cette reconstitution que tu as tentée.
En fait, c'est pas comme ça que je travaille. C'est-à-dire que c'est pas a priori que je décide de faire une photographie qui va faire penser à la tour, par exemple. Mais dans le cours du travail, moi, je choisis en fait les photographies qui m'évoquent des peintres. Et en l'occurrence, la référence à la tour, elle est plutôt due au procédé. C'est-à-dire que pour cette grande photographie qui est en face de nous, il y avait un styliste qui avait dessiné des costumes pour les enfants. Donc c'est la seule photographie en fait qui cette série c'est une des rares fois où j'ai travaillé en fait comment on peut dire ça, en studio on pourrait dire, mais sauf que le studio était une grange, donc il y avait un âne, une brebis et des enfants. Donc les enfants, je leur ai demandé de surtout pas regarder bien sûr l'objectif, mais de regarder la bougie qui était dans le seau qu'on voit pas. Donc c'est très trivial, mais en fait le résultat est assez surprenant. Donc c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que la source lumineuse est occultée, ce qui produit, ce qui éclaire tous les visages, tous les corps en présence.
Effectivement, cette grande photo évoque la nativité, hein. C'est aussi un sujet qu'on retrouve souvent avec ces personnages qui observent un point de l'image. Et là, c'est le sceau, la source de lumière, donc. Qu'est-ce que ça laisse penser, cette lumière? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle permet?
Ben en fait, la lumière, elle permet tout. La lumière, elle permet la vie, d'abord. Donc, c'est quand même fondamental. Et puis, concernant la photographie, ben c'est la source de tout. C'est-à-dire que c'est la lumière qui est reflétée sur les objets, qui heurte une surface sensible, exactement que ce qui se passe dans notre œil. Donc, c'est vraiment l'essence de la photographie. En l'occurrence, ces photographies, elles sont issues, pas toutes, hein, mais en tout cas cette grande photographie, elle est issue d'une commande en fait pour une exposition que j'avais faite à l'église Saint-Merry à Paris, à côté de Beaubourg. où on m'avait demandé effectivement, plutôt que de faire une crèche, le curé qui était quelqu'un d'assez, on pourrait dire révolutionnaire, et oui, érudit aussi, oui, et féru d'art, avec qui j'avais travaillé déjà par le passé quand il était curé à Notre-Dame-des-Champs, boulevard du Montparnasse. Donc m'a demandé si plutôt que de faire une crèche, moi je pouvais faire une photographie, une œuvre d'art. Et donc je me suis pris au jeu, j'ai trouvé ça très intéressant et ça a donné ce résultat, donc qui a été exposé pendant plusieurs mois à Paris. Et comme d'autres, d'ailleurs d'autres photographies comme celle qui est affichée en fait en vitrine, qui a été exposée dans de nombreux lieux, hein, à Salzbourg en Autriche, à Klaipeda en Lituanie, à Barcelone, à Madrid, à Lisbonne, et puis j'en passe. Oui, aussi à Copenhague, à La Haye, donc dans de nombreux pays. Et là, elle arrive à 10.
A contrario de cette lumière, il y a aussi cette immense masse noire, cette obscurité, cette nuit. Quel est le parallèle avec ce noir et cette lumière, selon toi?
En fait, c'est exactement ce qu'on appelle le clair-obscur. C'est-à-dire que la lumière, on ne voit jamais mieux la lumière que lorsqu'on est dans l'ombre. Et pour la mettre en valeur, on part de l'ombre. Mais il y a aussi une raison très, très, très triviale, technique. C'est que lorsqu'on travaille avec des longs temps de pause et que le fond est noir, toute la lumière qui a été réfléchie sur les objets, sur les visages, sur les corps, en fait, reste imprimée, impressionnée. Parce que le principe étant que là où il y a eu de la lumière, la surface sensible est impressionnée et elle le reste. Alors que, à l'inverse, et ça c'est le cas des photos de format plus modeste qu'on peut voir là où il y a tout ce petit accrochage à la manière d'un cabinet de curiosité façon 17e, donc très chargé, quand le fond est blanc, ce qui se passe c'est que partout, quand le personnage bouge, eh bien il s'efface. Parce que c'est la lumière qui prime. Donc partout où il y a eu lumière, il n'y reste plus rien que du blanc. Voilà, je crois que c'est.
Ça, c'est l'aspect photographique, hein, comme tu disais, ce mur avec cet aspect de cabinet de curiosité où sont présentés au moins une trentaine d'œuvres, hein, de tailles très diverses, surtout photographiques quand même. Qu'est-ce que ça. C'est un peu le cheminement de ce travail qui est proposé aussi au regard. Comment a évolué cette démarche? Et quelle est la base de travail initiale d'ailleurs? Est-ce qu'elle est présente sur ces images?
Alors, la base de travail.
Qu'est-ce qui a déclenché ou enclenché cette démarche?
Oui, c'était le sténopé, donc effectivement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de sténopé. Bon, après, j'ai travaillé d'assez grand format et la galerie n'est pas immense, donc je ne pouvais pas tout mettre. Mais c'est l'origine en fait de ce travail. Il y a certains. Comme effectivement la photographie dont je parlais tout à l'heure, qui a pas mal voyagé, en fait c'est une photographie qui a été réalisée à 10, qui était dans, il y avait des jeunes qui faisaient du théâtre au sein de l'association Trajet Spectacle, et j'avais fait de la photographie, et donc voilà, c'est à cette occasion-là, moi j'ai profité de la lumière, de l'éclairage qui était proposé. Et ce qu'on peut voir dans cette série, c'est que en fait, il y a certaines photographies qui sont aussi peintes, où il y a eu un travail de peinture dessus. Donc ça, c'est un petit peu un glissement qui se fait pour faire le lien avec les autres travaux qui sont plus de la gravure, du pastel. de la peinture. Parce que c'est assez intéressant en fait qu'une photographie qui évoque la peinture finalement soit un support pour de la peinture. Puisque aussi on peut se poser la question, hein, donc toutes les photographies sont très picturales, donc elles ont une référence à la peinture. Ça pourrait être de la peinture à l'huile d'ailleurs, souvent. On pose la question, est-ce que c'est de la peinture, de la photographie? Le lien, en fait, le glissement est assez présent. Mais dans tous les cas, on sait que ben, les impressionnistes, quand la photographie est apparue, s'en sont emparés, parce que ça a changé complètement, complètement le paysage et puis la façon dont on considérait la peinture. Puisque ben, il n'était plus question, en tout cas, enfin, certaines personnes devaient continuer à se faire tirer le portrait en peinture, mais c'était beaucoup plus rapide et économique en photographie. Donc ça a vraiment changé complètement le rapport à la représentation. Ce qui justifie aussi cet aspect flou, parce que si c'était juste une photographie, après les photographes l'utilisent très bien, la photographie qu'on pourrait appeler, je sais pas, documentaire ou tout simplement de portrait. Mais bon, voilà, moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, là, c'est l'aspect pictural de la photographie, là, qui m'a tenu en haleine.
Ça me revient pendant ce que tu disais, une phrase que j'ai lue, semble-t-il, de Man Ray, qui disait que lui peignait ce qu'il avait, ce qu'il ne pouvait pas photographier, et photographier ce qu'il ne pouvait pas peindre. C'est un peu quelque chose comme ça aussi.
Oui, effectivement. Mais c'est-à-dire que ce qui justifie pleinement, pour moi, en fait, ces photographies, c'est que elles n'existent pas. Elles sont impossibles à réaliser, à voir. En fait, on voit pas ça à l'œil nu. C'est impossible de. Quand on est présent, on assiste à une scène assez banale, grâce à cette technique, cette technique de prise de vue, ben les choses sont magnifiées et sont élevées au rang de la peinture. Voilà, moi j'ai perdu un petit peu le fil de la question, mais.
C'était est-ce qu'il y a, comment dire, un dialogue en vis-à-vis entre photographie et peinture. Tu disais aussi Gerhard Richter en début d'émission, qui lui, ce qui m'a fasciné aussi, hein, ce sont ces reproductions en peinture de photographie, de l'objet photographique plutôt que l'image.
Oui, tout à fait. Et aussi, là, il part de beaucoup comment dire, de photographies tirées des journaux ou des choses comme ça. Donc, qui touche en fait aux moyens de reproduction contemporains. Et oui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi, ouais.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5,
101.7
FM.
Et alors, ce travail aussi plutôt graphique entre peinture, gravure, qui découle peut-être aussi de cette recherche photographique. Est-ce que ça a permis de te lancer sur un autre type de travail, d'autres études sur ces représentations que je vois toujours comme des silhouettes, hein, où il y a peut-être aussi des meubles. Ça fait peut-être référence avec Bacon, ce mobilier parfois parsemé sur une de ses toiles.
Bien, oui, en fait, c'est toujours la question de l'absence. De la même façon que dans la photographie, dans les photographies qui sont présentes, c'est l'absence, en fait, de. Comment dire, de l'aspect reconnaissable des individus qui est mis en exergue. Dans la peinture, ces chaises, en fait, parce que c'est un travail qui est extrait d'une exposition qui s'appelait Portrait de quelques chaises, qui est assez ancien, hein, qui date des années 99-2000. Ben, ça représentait l'absence. C'est-à-dire que quand on présente une chaise, eh bien, ça renvoie à l'absence du corps qui est censé être assis dessus. Et de la même façon, les silhouettes, De par la technique, puisque c'est du monotype, c'est-à-dire que il y a un dessin, une peinture qui est faite sur une feuille et qui est transférée sur une autre, et donc il y a, de par l'aspect aquarellé, du flou qui s'instaure aussi. Et ça donne effectivement la même présence archétypale. Donc visuellement, ça n'a absolument rien à voir, parce que les couleurs sont beaucoup plus vives, et donc ça évoque un autre univers. Mais il y a de même cette présence qui transcende l'individu et qui se pose de cette façon-là. Donc il y a des références aussi à la peinture, hein, parce qu'on peut voir le printemps de Botticelli ou des figures héraldiques un petit peu, oui, archétypales aussi, une présence comme ça, avec aussi des interventions purement contemporaines, donc qui sont issues de photographies que j'ai faites. Donc j'avais mon atelier à Marseille à ce moment-là, je sortais dans la rue pour prendre en photo des gens, et puis j'intégrais leur silhouette, mais en beaucoup plus petit, dans ces travaux. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'effectivement, il y a un lien au moins de sens, un lien sémantique entre ces travaux photographiques et ces travaux plus picturaux.
Étant artiste plasticien, ton temps en journée est consacré à ces recherches picturales ou de techniques?
En fait, c'est la recherche que je fais par le travail, c'est-à-dire que c'est plutôt une découverte. En général, il s'agit de bonnes surprises, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, qui nous échappe, et c'est comme ça souvent qu'on découvre les choses. Mais oui, je passe en fait pas mal de temps à réexaminer des choses que j'ai faites par le passé. Pas uniquement, hein, mais quand même, et je regarde si ça tient la route. Donc si quelque chose qui a été fait il y a plus de 20 ans me paraît toujours aussi convaincant, eh bien je le laisse donc ranger pour l'exposer un jour. Et par contre, si je trouve qu'il y a des choses qui étaient à l'état d'ébauche, ou alors qui me semblent plus tout à fait satisfaisants, je les retravaille. Et ce qui me permet de partir en fait d'une base préexistante pour vraiment la transcender et l'emmener ailleurs. Oui, c'est une façon de travailler que j'aime beaucoup. De la même façon, je travaille aussi des gravures que je retravaille à la peinture ou à la craie grasse pour vraiment leur donner une autre dimension.
Les tirages présentés en grand format sont de quelle technique Est-ce que c'est imprimé? C'est un tirage photographique par procédé de bain chimique?
Alors en fait, c'est un tirage photographique, mais est-ce que ça passe par un bain chimique? J'ai du mal à dire autant que je me souvienne. Parce que moi, j'ai fourni des fichiers numériques. Oui. Mais ce sont des tirages. Oui, je ne sais pas. Maintenant, je ne sais pas si on utilise encore la chimie. Mais c'est de la vraie photographie qui est, comment dire, il y a un pelliculage mat qui permet, parce que quand on a des photographies assez sombres, c'est vite illisible parce qu'il y a une multitude de reflets, donc ça permet de pouvoir voir la photographie. Et aussi, ça me permet d'éviter les vitres, parce que vraiment, s'il y a quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter, ce sont les vitres devant les photographies, parce qu'on glisse dessus comme un écran, comme sur un écran de téléphone. D'ailleurs ça me fait penser à ces travaux qui sont à la craie grasse, donc qui ont beaucoup de texture. Et lors d'une exposition, je les avais installés, et un petit peu avant le vernissage, j'avais mis le verre dans les cadres. Et je passais devant et je ressentais plus aucune émotion. Mon regard glissait dessus. Et là, je me suis rendu compte que, oui, effectivement, je glissais sur la surface lisse du verre. Donc, j'ai retiré les vitres pour vraiment avoir la texture, la réalité, en fait, du monde, de la matière, qui me semble vraiment fondamentale. Et ces photographies, elles sont marouflées sur du Dibond, donc c'est une couche de PVC pris en sandwich dans de l'aluminium. Voilà, ce qui permet d'avoir une rigidité sans passer par les cadres.
Ces tirages, ou du moins ces impressions, est-ce que tu travailles avec la personne qui te les produit sur ces grands formats, ou alors il y a une totale confiance de l'objet ou de ce fichier numérique et qui sera peut-être proposé par le tireur? Est-ce qu'il y a une possibilité de travailler ensemble pour mettre en évidence plus de choses que d'autres?
Alors oui, ça c'est un aspect technique qui est très très important en fait, parce que quand on travaille les fichiers, donc on a un écran qui est calibré ou qui ne l'est pas, et puis en fonction des machines qui sont utilisées pour faire les tirages, il faut télécharger les profils colorimétriques pour les intégrer afin de, en fonction de la machine, c'est-à-dire suivant les formats, ils n'utilisent pas les mêmes machines, pour pouvoir avoir un rendu relativement fidèle. Et pour des grands formats comme ça, effectivement, il y a toujours des tirages d'essais et un dialogue avec le tireur pour voir. Donc déjà, on regarde sur l'écran calibré, ensuite on regarde les tirages, au moins les premiers tirages, pour voir si c'est fidèle à l'effet qui est recherché. Et ensuite, on peut procéder à différents réglages, sachant que c'est très très pointu à régler, puisque c'est très sombre, la frange colorimétrique est très fine. Et donc si on change d'écran ou si on change de machine pour une impression, ça peut faire des choses totalement inintéressantes. Donc oui, c'est un moment vraiment très très important et extrêmement technique et pas évident à maîtriser. Ouais.
Oui, c'est ça, c'est comme ça, juste en réflexion. Il y a peut-être 5-10% de lumière sur ces grandes photographies, hein. Le reste, c'est obscurité.
Oui, il y a beaucoup d'obscurité, mais comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus il y a d'ombre et plus la lumière est mise en valeur. Donc c'est vraiment l'effet du contraste, donc le principe du clair-obscur, qui fait qu'effectivement, il y a peu de surface colorée, peut-être plus de 10%, hein, mais il y a une grande présence de l'ombre qui permet à l'image de surgir aussi. Il faut dire que ces grands tirages, donc qui paraissent très grands ici dans la galerie, étaient exposés dans une église, donc suspendus en l'air. Et dans l'église était plongée dans l'obscurité et les tirages, les photographies étaient donc uniquement éclairées par des découpes, ce qui faisait qu'on avait vraiment une image qui flottait en hauteur et qui était vraiment vraiment mise en valeur.
Justement, ces tailles, ces dimensions d'image, hein, elles sont, on peut dire, au moins soit d'un mètre de hauteur ou de 1,50 m de large. Quelle est cette décision de proposer ce type de taille, de format?
Alors, déjà, ça permet d'avoir des images qui sont assez grandes et on peut bien voir les détails. Ensuite, c'était beaucoup dû au lieu. C'est-à-dire que dans un grand espace, dans une église, si on installe une photographie qui fait 20 par 30, on la verra pas parce qu'elle sera perdue dans la masse. Donc, il faut quand même un format assez important. Donc la plupart sont en fait le maximum le plus grand format qu'on peut avoir dans les labos qui est de l'ordre de 76-114 ou 80-120. Et la grande photographie donc qui est hors gabarit. Donc ça c'est vraiment un luxe parce que ça coûte très cher en fait. Dès qu'on dépasse le 80-120, les prix explosent. Donc celle-ci, elle fait 180 par 130. Mais oui, c'était la dimension, c'est vraiment dû au lieu d'exposition. Mais aussi, ça met énormément en valeur, quoi. On les voit mieux.
Je pensais à une chose aussi, ayant pratiqué la photographie également, j'utilisais avec avidité des films de 25 ASA. C'était ACFA qui proposait ça à l'époque, ce qui me permettait d'exposer très longuement des prises de vue. Et donc, on peut saisir vraiment des choses tout en douceur. Est-ce qu'il y a une démarche aussi au niveau des photographies avec un manque de sensibilité pour capter plus dans la longueur, dans la durée? Ou alors ce sont des prises entre 100, 200 ou voire 400 ASA pour produire, avoir une immédiateté de l'instant?
Alors, il n'y a pas, c'est pas du tout l'instantané qui est recherché, hein. Donc, ce sont plutôt des poses lentes, une sensibilité assez basse, mais il m'arrive de faire des photographies de nuit, et dans ce cas-là, j'ai recours à des pellicules d'une sensibilité de l'ordre de 1600, 3002, voire 6004, pour pouvoir avoir quelque chose. Et effectivement, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la lumière qui s'accumule petit à petit. Alors là, surtout dans les paysages, hein, parce que quand il y a des humains, c'est un petit peu dur pour eux de ne pas bouger pendant une heure. Mais ça vient du sténopé, en fait. En sténopé, je faisais assez régulièrement des photographies dont le temps d'exposition était de 4 heures, de 8 heures, voire même de plusieurs jours, voire même de plusieurs mois, donc dans des endroits extrêmement sombres pour capter vraiment quelque chose qui est absolument invisible à l'œil nu. Ça m'intéresse beaucoup. Et aussi, on parlait tout à l'heure de la personnalité du portrait. En travaillant en sténopée, donc j'avais souvent des temps de pause de l'ordre de 1 minute. Et j'avais pris l'habitude, j'ai fait une petite série comme ça de photographies de portraits où moi je posais 30 secondes et la personne posait également 30 secondes. Donc j'avais fabriqué un petit peu une chaise ou des points de repère, ou des fois on le faisait au feeling, pour en fait avoir un portrait où se mêlaient deux visages. Et ce qui est extrêmement troublant, parce que on est en présence de deux personnes et en même temps d'une personne qui n'existe pas. Je pense à ça. Et puis bien sûr, j'ai poussé ça assez loin. On a même utiliser un bidon de 200 litres pour faire des photographies assez longues, notamment une demi-heure. Donc là, on était une vingtaine à avoir posé. Bon, à la fin, on a quelque chose qui ressemble au suaire de Turin un petit peu.
Il y a d'autres aspects, hein, de ton travail. Tu nous avais présenté au musée d'Udi il y a 2 ou 3 ans des faux objets antiques et qui sont en fait issus de produits contemporains, d'objets contemporains, et qui étaient disséminés au milieu des collections du musée. Il y a d'autres approches que tu amènes aussi. Peut-être que le point commun entre les deux, c'est le temps.
Oui, le temps est fondamental. C'est-à-dire que c'est vraiment le caractère, la question du temps, c'est ce qui fait le fil directeur à travers tout mon travail. Des choses qui peuvent être vraiment très, très, très différentes d'aspects, et aussi ce qui justifie aussi l'utilisation de médiums extrêmement disparates, variés, divers. Mais c'est toujours le temps, effectivement, qui relie tous ces objets. Donc le temps passé, la contemporanéité qui est si éphémère, et puis de la même façon, dans ces photographies qui sont des photographies numériques qui font référence à la peinture classique, on a ce rapport de temps, de la même façon que effectivement les objets très contemporains, mais qui avaient l'aspect d'objets anciens, qui étaient glissés dans les vitrines, se tenaient aussi avec cette question du temps, qui me paraît vraiment fondamentale. Dans tous les cas, c'est nous, la lumière et le temps. Voilà, on est dedans aussi. On est pris dans cet espace-temps. C'est vrai.
Est-ce qu'il existe une page pour découvrir ton travail?
Alors oui, c'est C'est possible. Alors, j'ai un compte Instagram, Yann, donc Y-A-2-N underscore, donc le tiret du 8, le tiret du bas, le grand tiret du bas, YLC. Yann underscore YLC. Et aussi, on peut voir ce travail photographique et d'autres sur mon site internet YLC, petit tiret du 6, YLC.com. Voilà, peut-être puisqu'on est dans les adresses, donc YLC-YLC.com. En fait, je tiens aussi à signaler que ici, donc dans cette galerie, elle est officiellement ouverte de 11h à 13h les jours de marché, donc les mercredis et les samedis, jusqu'au 21 décembre. Et puis, ben, à chaque fois qu'il y a de la lumière aussi, parce que ben, j'y travaille aussi, et cet accrochage est un accrochage en permanente évolution. Donc, je suis là, je ramène des travaux, j'échange des choses, et donc dès qu'on voit de la lumière, ben, on peut visiter.
Voilà, avec cette petite pancarte écrite ouverte.
Oui, ouvert, donc 6 rue du Salin, à 10. Ouais, vous êtes les bienvenus, vraiment. Non, mais ça vaut le coup, ça vaut le détour, je pense. Les gens qui viennent, en tout cas, sont toujours troublés et intéressés.
Il y aura un vernissage prochainement pour cette exposition.
Oui, absolument. En fait, le vernissage est prévu le 14 décembre, donc le samedi 14 décembre, de 11h à 13h. Et donc, ben, vous êtes vraiment les bienvenus pour venir profiter de cette belle exposition et puis pouvoir en parler.
Yann Le Croénec, merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné un peu de votre temps pour cette interview à la Galerie Magma. Donc, et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, bonsoir Yves, et merci à Radio Diwa d'être fidèle à mes expositions. Au revoir.
Au revoir.
Thank you.